On se souvient de ce crash terrible du Boeing près de Jakarta là, en 2021. Un exemple assez frappant de ce qu'on appelle le biais d'automatisation, non ?
Oui, tout à fait. Cette confiance un peu aveugle dans la machine, même quand il y avait des signaux d'alerte. C'est dramatique.
Et aujourd'hui, justement, on va creuser un peu comment les IA, type ChatGPT, pourraient influencer nos propres cerveaux. On s'appuie pour ça sur une analyse vidéo assez détaillée qui s'appelle « Comment ChatGPT vous bousille le cerveau ?» Titre un peu choc d'ailleurs.
Oui, un titre provocateur, mais qui pose la question. L'objectif, c'est de regarder de plus près les mécanismes qu'elle décrit. La paresse cognitive, l'atrophie possible, l'effet sur la créativité, ces fameux biais de confiance, l'impact émotionnel aussi.
Et voir un peu les solutions proposées, j'imagine.
Voilà, c'est ça. Et l'analyse commence fort avec cette idée de paresse cognitive. C'est vrai que notre cerveau, il est un peu feignant, naturellement. Il veut économiser de l'énergie.
C'est le fameux système 1 contre système 2 de Kahneman, c'est ça ?
Oui.
Le rapide et intuitif contre le lent et réfléchi.
Exactement. Le système 1, c'est la voie facile, rapide. Le système 2 demande plus d'efforts, plus d'énergie.
On le voit bien avec l'énigme de la batte et de la balle. 1,10€ en tout, la batte coûte 1€ de plus.
Ah oui, le piège classique. La réponse qui vient tout de suite, c'est 10 centimes pour la balle.
Alors que c'est 5 centimes. Voilà, nos cerveaux prennent le raccourci et on fait déjà du délestage cognitif avec nos listes, nos post-it.
Bah oui, et puis il y a eu l'effet Google. On retient où trouver l'info, mais plus forcément l'info elle-même.
D'accord. Mais alors, selon cette analyse vidéo, l'effet ChatGPT, ça serait encore autre chose, plus fort.
Oui, c'est ce qu'elle avance. L'IA ne fait pas que trouver l'info pour nous. Elle la synthétise, elle la traite. Parfois, elle agit carrément à notre place. Et le risque, pointé du doigt, c'est que notre cerveau se mette un peu en mode veille, quoi. Ce qui pourrait mener à une sorte d'atrophie cognitive.
Atrophie, le mot est fort quand même. C'est un peu comme un muscle qu'on n'utilise plus.
C'est l'image, oui. Si on sollicite moins nos capacités à réfléchir, mémoriser, décider, elle pourrait s'affaiblir.
Est-ce que la source donne des preuves, des études pour étayer ça ?
Oui, elle cite une étude du MIT. Assez intéressante. Des gens qui utilisaient ChatGPT pour écrire, bon, ils étaient plus rapides, certes, mais leur activité cérébrale était plus faible.
Ah oui.
Et ils retenaient moins bien ce qu'ils avaient écrit eux-mêmes. Donc, efficacité à court terme, peut-être, mais quid du long terme sur nos capacités humaines.
D'accord, je vois. Et au-delà de la pure analyse, la créativité aussi pourrait en prendre un coup.
C'est l'autre grosse inquiétude soulevée. L'IA peut générer plein d'idées très vite, c'est vrai, mais une étude de Toronto, aussi citée dans l'analyse, a montré qu'un groupe exposé à l'IA pour trouver des idées devenait moins créatif que le groupe témoin, une fois qu'on leur retirait l'outil.
Moins créatif.
Carrément.
Ouais.
Ça suggère une forme de dépendance, et puis aussi le risque que tout le monde finisse par avoir un peu les mêmes idées si on puise tous aux mêmes suggestions algorithmiques, une sorte d'uniformisation.
Cette dépendance, ça fait réfléchir. Et ça nous ramène au problème de confiance, le biais d'automatisation du début.
Exactement. L'analyse raconte l'histoire de cet avocat à New York.
Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Il avait utilisé des fausses jurisprudences inventées par ChatGPT.
C'est ça. Et il ne les a pas vérifiées parce que le texte avait l'air crédible, bien écrit. L'esprit critique, hop, endormi.
Impressionnant.
Et ce biais logique est renforcé par un autre truc, notre tendance à l'anthropomorphisme. On a tendance à humaniser l'IA.
Mais oui, on lui dit merci, on met des emojis.
Voilà. Et les développeurs, ils le savent, hein. Ils créent des interfaces conversationnelles. L'IA dit « je pense que ». Ça crée un lien, on a l'impression de parler à quelqu'un et paf, on baisse la garde.
Donc on se fait avoir à la fois par la logique apparente et par l'émotionnel en quelque sorte.
C'est exactement ça. Selon l'analyse, le cerveau logique et le cerveau émotionnel sont hackés en même temps. C'est là que ça devient potentiellement dangereux. La source mentionne même un cas très triste en Belgique.
Oui. Et au-delà de cette confusion, il y a un impact émotionnel plus direct, même sans aller jusque-là.
Apparemment, oui. Une autre étude du MIT, encore eux, suggère qu'utiliser ChatGPT pour des conversations perso, ça peut paradoxalement augmenter le sentiment de solitude.
Ah bon ? Comment ça ?
Parce qu'il n'y a pas de vraie empathie en face. C'est une illusion de connexion. Et même pour le boulot, une dépendance émotionnelle peut s'installer. L'IA devient ce partenaire idéal, toujours dispo, jamais fatigué, mais ça isole.
Et ce phénomène dont on parle parfois, le TikTok brain, la vidéo fait lien.
Consommation de formats très courts, souvent poussés par les algorithmes d'IA, nous habitue à des récompenses immédiates et réduirait notre capacité de concentration sur le long terme.
Moins de patience, moins d'attention soutenue.
Voilà. Et ça s'ajoute aux bulles de filtre qui nous enferment un peu, limitent la découverte, confrontent moins nos idées. Tout ça, ça n'aide pas l'esprit critique.
Bon, Le tableau dressé par cette analyse vidéo est assez préoccupant. Est-ce qu'elle propose des pistes pour reprendre un peu le contrôle ?
Heureusement, oui. Elle suggère trois étapes principales. La première, c'est la métacognition.
La méta quoi ?
La métacognition, c'est prendre conscience de sa propre façon d'utiliser l'IA. Se poser la question, est-ce que je m'en sers comme d'un outil pour m'aider ou comme d'une béquille pour ne pas avoir à réfléchir ?
D'accord, s'observer soi-même en gros.
C'est un peu ça, oui. Deuxième étape, le micro-dosage ou le challenge. L'idée, c'est d'utiliser l'IA, oui, mais avec modération et surtout activement.
C'est-à-dire ?
Vérifier ce qu'elle dit, la pousser à mieux faire, la corriger, l'améliorer, interagir avec elle pour muscler son propre cerveau au lieu de juste la laisser faire.
Ne pas être passif, quoi. Et la troisième étape ?
La cure de désintoxication. S'imposer des moments sans IA, forcer son cerveau à travailler tout seul. Un peu comme faire du calcul mental au lieu de sortir la calculette pour 2 plus 2. Résister à la facilité immédiate.
D'accord. Donc pour résumer le message de cette analyse vidéo, l'IA, c'est super efficace potentiellement, mais attention, une utilisation trop passive, trop confiante, ça comporte de vrais risques pour notre façon de penser, notre créativité et même notre équilibre émotionnel.
Tout à fait ça, c'est une invitation à être plus conscient, plus actif dans notre usage de ces outils.
Et l'analyse se concentre beaucoup sur ce qu'on peut faire nous, individuellement. Mais ça ouvre une question plus large, je trouve. Au-delà de nos habitudes, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité du côté des concepteurs ? Pourrait-on imaginer des IA conçues différemment ? Peut-être pour nous pousser activement à réfléchir, à critiquer, plutôt que de juste nous faciliter la tâche au point de nous rendre paresseux.
C'est une excellente question pour conclure, effectivement. Une piste de réflexion importante pour l'avenir.